Du 2 au 4 juin prochain, à l'occasion de la clôture du projet des veilleurs de Cap-de-Nac, Derrière le Hublot nous donne rendez-vous pour un second point de fuite. Et au programme, de la danse, du cirque, de la musique, des arts de la rue, des performances, mais aussi des rencontres, des balades et des ateliers qui vont ponctuer ce week-end. Et je suis aujourd'hui avec Fred Sancerre, directeur de Derrière le Hublot. Bonjour Fred.
Bonjour.
Alors je vais reprendre vos propos, je vais vous citer un autre festival, une suite, une fuite, une trajectoire, un point de fuite. Ça vous inspire ? Enfin, c'est vous qui l'avez écrit quand même, hein, c'est pas moi.
J'espère que ça inspire d'autres que moi, puisqu'effectivement je l'ai écrit. Je l'ai écrit pour jouer d'abord, puisque en commençant ces quelques mots par un autre festival, c'est aussi le souvenir que le... Derrière l'Hublot a produit pendant très longtemps un festival qui s'appelait l'Autre Festival. Voilà. Point de fuite, ce n'est ni plus ni moins qu'une suite de ce festival-là. C'est un temps fort dans notre travail de saison et le travail qu'on mène sur le territoire ici entre Cap-de-Nac, Figeac et toutes les communes autour. Mais c'est un temps de rassemblement qu'on souhaite artistique, festif, populaire. Voilà. Et donc, quand on a choisi de l'appeler Point de fuite, c'était un écho au démarrage de la performance des veilleurs. Puisqu'en fait, avec la performance des veilleurs, on est sur un point haut du territoire, à Cap-de-Nac-le-Haut, puis on regarde une ligne d'horizon. Il y avait quelque chose comme ça, d'une trajectoire ouverte, hein, dont on a eu envie de se saisir comme une base pour inviter d'autres artistes. Voilà, donc est né cet événement, ce nouveau temps fort qu'on a choisi d'appeler point de fuite pour la seconde fois. On verra peut-être que Point de fuite s'arrêtera là et s'arrêtera avec cette seconde édition et la fin de la performance des veilleurs. Mais si Point de fuite s'arrête, peut-être l'autre festival redémarrera ou un autre temps fort en tout cas existera, c'est sûr. Après, on peut jouer à changer de nom de temps en temps aussi, quoi.
Alors, on va revenir sur les veilleurs de Cap-de-Nac. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un bilan de cette année, un projet un peu incroyable, 365 jours ? C'est long comme projet.
Alors, le projet des veilleurs, c'était 365 jours, 1 heure le matin, 1 heure le soir, 730 personnes différentes, donc 730 rendez-vous très singuliers, du coup, pour veiller 1 heure le territoire sur lequel on habite et dans lequel on vit pour la plupart des veilleurs. Donc, c'était effectivement certainement le projet le plus fou que Derrière l'Hublot a mené depuis très longtemps, en fait, puisque autant on s'est organisé des spectacles pour plusieurs milliers de personnes, autant organiser 730 rendez-vous pour une personne, c'est toujours quelque chose d'assez incongru et assez nouveau pour nous. En tout cas, le bilan qu'on peut en tirer aujourd'hui, alors qu'il reste 15 jours à 3 semaines avant que cette performance se termine le 4 juin prochain, 4 juin 2023, c'est que ça s'est excellemment bien passé. C'est-à-dire qu'on a eu du monde de tout le temps, donc le territoire a été tous les jours veillé, le matin et le soir. Il n'y a jamais eu de creux dans l'éveil. Hein. Qu'on a vu énormément de gens de ce territoire se mobiliser, des gens très différents, des gens qu'on ne voyait pas jusque-là, dans les spectacles, dans les temps forts, dans toutes les manifestations qu'on organisait, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux, des gens de passage aussi, des gens qui ont fait parfois le chemin exprès pour venir là et se partager une veille le soir, une veille le matin quand ils étaient en couple, donc dormir sur le territoire aussi. Voilà. C'est une expérience assez incroyable et qui s'est doublée d'un autre événement tout à fait heureux, c'est que pour accompagner chacun des veilleurs, il y avait chaque fois une personne qu'on appelait les accompagnateurs et accompagnatrices. Et c'est une exceptionnelle communauté de gens qui s'est réunie autour de ce projet, une cinquantaine de personnes qui se sont associées, qui se sont réunies pour chaque matin, chaque soir être là. Et ça, c'est très très beau puisque c'est aujourd'hui des personnes qui prennent part à la vie de Derrière le Hublot et à la vie de Point de fuite notamment, et d'autres rassemblements. Donc c'est assez exceptionnel comme projet, ça laissera des traces. Je pense qu'on ne sortira pas indemne, Derrière le Hublot en sera modifié un petit peu, puisque c'est pas anodin comme aventure.
Est-ce que vous croyez que ce projet vous a apporté, comment dirais-je, alors peut-être pas une notoriété, le mot est maladroit, mais est-ce qu'il y aura pour vous un retentissement de par le territoire ?
Je crois qu'on a touché des personnes qu'on ne touchait pas jusque-là. Alors ça paraît étonnant, puisque c'est en même temps formidable, hein, mais cette performance, elle peut paraître assez conceptuelle, et en même temps, elle est tellement simple, tellement sensible, que beaucoup de gens, qui ne sont pas forcément des gens qui fréquentent les spectacles et les arts sur ce territoire sont venus pour participer à un acte collectif. Voilà. Donc je pense que ça nous aura très certainement amené à rencontrer des nouvelles personnes. Ça aura très certainement amené des personnes à prendre conscience que sur ce territoire-là, il y avait d'autres, en tout cas des expériences artistiques, des expériences un petit peu surprenantes parfois. Donc oui, je crois que ça aura diversifié encore un peu plus le public que derrière l'Hublot peut toucher. Et puis un peu de notoriété, puisqu'en fait ce projet, il a été scruté partout. La presse nationale est venue voir parce que et d'autres ailleurs ont pris conscience qu'en fait un projet comme celui-ci n'était pas réservé qu'au centre urbain et aux grandes métropoles en France et en Europe, puisque c'était le cas jusque-là. Donc il y a énormément de collègues à nous qui ont des lieux culturels partout en France qui s'intéressent à ça en se disant, mais dis donc, si à Capdenac ils parviennent à le faire, c'est que nous autres on doit pouvoir aussi dans des villes de plusieurs dizaines de milliers d'habitants parfois. Voilà, donc c'est pas du tout anodin dans la vie de derrière l'Hublot, l'accueil des veilleurs de Capdenac. Ni pour le territoire. Je crois que c'est pas anodin pour le territoire non plus, cette aventure-là.
Que va devenir l'installation de Capdenac-le-Haut ?
Alors, l'installation de Capdenac-le-Haut, elle sera démontée et recyclée. C'est-à-dire que les bois qui ont été utilisés vont être recyclés pour d'autres projets, des projets de mobilier pour une exposition, des projets de mobilier pour des accueils pour derrière l'Hublot. Et peut-être, c'est possible que le couloir, en tout cas l'abri dans lequel les gens veillent, la partie vitrée, soit recyclé pour une autre installation des veilleurs à Paris, puisqu'il n'est pas impossible que cet abri reparte, en tout cas qu'on le cède à une autre structure. Donc c'est recyclé, ça ne restera pas, et en tout cas c'est tout ou partie démonté, quoi. Voilà. Kesu eiru kau kafei patuzu. Kesu eiru luar sukan devisa. Kesu eiru kau kafei patuzu. Perdu irten lugar su ala duanda. Perdu irten jesu benyer arzin. Perdu irten lugar su ala duanda. Perdu irten jesu benyer arzin.
Alors, bah écoutez, on va revenir maintenant un petit peu au programme de Point de Fuite. Bah, d'abord, il y aura donc Joanne Lecton, hein, qui a participé aux Veilleurs, hein, puisque c'est le projet de Joanne Lecton, les Veilleurs, au départ. Donc, elle va venir avec sa compagnie WLDN. Je le dis bien.
Ouais, elle dit Walden.
Walden.
Donc oui, l'idée, c'était de faire effectivement de Point de Fuite une espèce d'événement. On a sous-titré une sorte de festival, mais c'est bien ça, mais qui fait l'écho à cette performance des veilleurs. Donc on a beaucoup, enfin moi j'ai beaucoup travaillé en faisant la programmation, en cherchant des projets et à travailler avec des artistes qui allaient célébrer le fait d'être ensemble et de faire des actes performatifs, des actes chorégraphiques, mais dans célébrer la vie ensemble. Voilà. Et donc il est normal, tout à fait normal, que le Joanne Lecton ait une place singulière avec sa compagnie Walden, du coup, dans Point de Fuite, puisque ça s'articule autour de cette clôture du cycle des veilleurs de Capdenac. Et puis, du coup, c'était l'occasion aussi pour montrer d'autres facettes de son travail, dont une pièce, qui est une pièce d'ensemble avec tout un groupe de danseurs et danseuses, du coup, qui s'appelle People United, qui est une pièce du répertoire de Joanne et qu'il nous importait de présenter pour que les gens voient une autre des facettes de son travail. Les veilleurs, qui est ce travail très singulier, mais aussi le travail de plateau, le travail qu'elle crée pour la scène, du coup. Voilà, donc People United sera là. Puis on a aussi sollicité Joanne pour des expériences autres, en tout cas des rencontres avec le public à travers des échauffements chorégraphiques, à travers un atelier chorégraphique, mais aussi une marche qui permettra d'aller... d'aller accueillir le dernier veilleur, finalement, de l'ordre du symbole, mais où on partira de Capdenac pour aller à Capdenac le haut à pied, accueillir le dernier veilleur du 4 juin au soir.
C'est qui le dernier veilleur ? C'est secret ou pas ?
C'est pas secret. En tout cas, on n'a jamais dit qui étaient les différents veilleurs, mais en tout cas, le premier veilleur, c'était le maire de Capdenac le haut. Le dernier veilleur sera celui de Capdenac Gare. Donc le dernier veilleur, c'est Stéphane Bérard, maire de Capdenac Gare. On voulait qu'il y ait ce projet, il a une puissance symbolique forte. Et donc, on trouvait plutôt assez amusant qu'il y ait ce passage de relais, puis qu'il y ait cette. En tout cas, il nous semblait assez naturel que les deux élus de ces villes-là soient partie prenante du projet, ce qu'ils sont.
Donc ensuite, alors c'est le retour, si j'ai bien compris, de la compagnie Kamchatka.
Alors Kamchatka, c'est des vieux compagnons de route. Je pense que ça fait une quinzaine d'années qu'ils viennent sur Cap de Nac et dans les villages autour, là où on les a accueillis. Compagnie internationale, implantée en Espagne, mais avec des comédiens d'un petit peu partout en Europe, qui viendra jouer Alter, qui est finalement le quatrième chapitre des créations de Kamchatka. Tout ont été accueillis ici. Voilà, Alter est venu, ils l'ont préparé en résidence ici en 2020, en pleine période de confinement, etc. On devait le présenter sur le festival 2021 qui a été annulé à cause de la pandémie. Donc on retrouve Alter, voilà, qui est une traversée, un moment de nuit. L'enjeu pour eux, c'était de travailler sur des paysages nocturnes, sur savoir se perdre la nuit. Finalement, on part en groupe et c'est un court moment, mais comme une traversée de la nuit pour célébrer aussi quelque chose et être ensemble dans ce moment-là. Le théâtre de Kamchatka est un théâtre, sorte de théâtre de rue, en tout cas mais sans parole, et qui est toujours extrêmement touchant parce que c'est une compagnie qui sait travailler les images très fortes et le regard, le toucher. On est toujours très proche d'eux, très impliqués. En fait, il n'y a pas de scène, il n'y a pas de quatrième mur, ils sont parmi nous. Voilà, c'est toujours très fort, une expérience à vivre toujours, le travail de Kamchatka. Donc, moi, j'ai noté aussi Rhizome avec Chloé Moglia. Alors, la compagnie de Chloé Moglia, effectivement, Rhizome, vient pour une... Je crois que c'est la troisième fois qu'on accueille cette compagnie à différents moments, en saison, en festival. Et là aussi, présenter une pièce de son répertoire avec six danseuses, chorégraphes, circassiennes, en fait, puisque c'est une artiste qui travaille à la fois dans le cirque, très proche de la chorégraphie, voilà. Sur une forme assez monumentale, qui peut s'apparenter à une forme de ressort, la spire, où ces six acrobates sont en suspension. Chloé Moglia, elle travaille souvent sur des gestes qui sont très lents, très développés, des gestes qu'on peut imaginer extrêmement complexes, difficiles, et qui reposent sur beaucoup de techniques, et en même temps qu'elles rendent extrêmement fluides, qui sont développées des fois très lentement. Voilà. Et c'est toujours extrêmement poétique, du coup, de voir son travail, puisqu'au-delà, finalement, de la prouesse qu'on peut retrouver dans le cirque, on est finalement très proche d'une rêverie, quelque chose de très, très doux. Voilà. Donc c'est un des temps forts du festival, le travail de Chloé. Voilà.
Alors ensuite, nous avons également de la musique.
Il y a plusieurs... effectivement, la musique est présente. Elle a toujours été présente dans les festivals de Derrière l'Hublot, qui s'appelle l'autre festival ou Point de Fuite aujourd'hui. Elle sera présente à travers Cocagne. Cocagne, c'est un duo de jeunes femmes qui chantent en langue d'oc et qui participent d'un renouveau des chants polyphoniques en langue d'oc. Voilà. C'est des musiques extrêmement modernes, en fait, et donc elles participent de tout ça. Elles sont c'est très beau à voir sur scène, c'est extrêmement festif aussi sur scène. C'est c'est de la percussion, des voix, et on retrouve l'élan, une sorte d'élan un peu hypnotique, et uniquement fabriqué finalement à partir de matériaux qui sont acoustiques, la voix et quelques percussions, quoi, voilà. Et on retrouvera un grand bal aussi, qui s'appelle le Municipal Bal, d'une compagnie qui vient du nord de la France, qui s'appelle la compagnie On-Off, où là, l'idée, c'est des formes qu'on aime bien aussi à Derrière l'Hublot, ces formes de bal, elles sont nombreuses, mais je dirais que celle-ci fait partie certainement des meilleures formes de bal dans lesquelles les musiciens, pendant 3 heures, nous invitent à danser, à la fois sur des choses très connues, et en même temps, c'est une grande fête, une débauche de fête, quoi, ce Municipal Bal, qui reprend, et c'est ce qui nous amusait beaucoup, finalement, tout l'imaginaire des bals populaires et tout le décorum des bals populaires, hein, avec les petites guirlandes de guinguettes, la musique live, et voilà. Donc ça, c'est, on était très heureux de proposer cette forme de bal pour aussi ce temps de clôture. Alors Pavillon Fouleur, c'est un travail d'un artiste qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Jordi Galli, qui est un chorégraphe, danseur, qui est très proche de, finalement de l'architecture aussi. Et Pavillon Fouleur, c'est la construction, alors là c'est un travail beaucoup plus proche finalement de la microarchitecture, qu'il va mener avec des élèves de collège pour fabriquer deux pavillons, un qui sera dans l'enceinte de l'établissement de ce collège et un autre du coup dans le parc. Voilà, donc c'est une performance finalement qui fonctionne parce qu'elle associe chaque fois un groupe de collégiens à l'édification finalement d'une micro-architecture. Le point de fuite, l'enjeu, c'était d'inviter les gens à participer, puisqu'on a invité le public à participer à une performance, celle des veilleurs, chaque fois. Et on avait envie que pendant le temps de point de fuite, on ait l'occasion de danser et on ait l'occasion de faire des actions ensemble. Kimbiga, c'est une performance qui ne fonctionne que si le public accepte de participer à un moment. C'est-à-dire, c'est pas un spectacle pour lequel on s'assoit et on regarde. Non, c'est qu'à un moment, si on veut que ça fonctionne, il va falloir se lever et bouger avec Kimbiga. Voilà, donc ça peut être très surprenant, et en même temps, il faut accepter de se laisser guider et de se laisser porter par lui. C'est extrêmement simple. Et ce que je dis chaque fois quand je raconte ce spectacle autour de moi, c'est que Kimbigas, finalement, va nous amener à danser sur des morceaux de musique dont on n'aurait jamais soupçonné leur capacité à nous faire danser. C'est-à-dire des morceaux voilà, qu'on écoute, qu'on connaît. Et voilà, c'est très beau. Et puis c'est une débauche de fête aussi avec lui. C'est très participatif, c'est très drôle. Et Kimbiga, c'est un danseur qui vit entre l'Espagne et le Danemark et qui est habitué des scènes européennes comme ça et à faire ce travail-là partout en Europe, quoi. Voilà. La fin des veilleurs, elle donnera lieu à un acte symbolique en deux chapitres. Cet acte symbolique, c'est une traversée de la ville pour rejoindre l'abri des veilleurs. Il y aura deux façons de le rejoindre, soit en allant vraiment au pied de l'abri, et donc on partira marcher avec Joan Layton jusqu'à l'abri des veilleurs, ou le rejoindre de façon symbolique en se postant en face de l'abri pour une dernière vision sur l'abri. Et cette dernière finalement performance de point de fuite, elle sera notamment guidée par un artiste qui s'appelle Maël Comar et qui fera une traversée de la ville sur un fil de fer, donc à la façon des funambules. C'est un funambule qui traversera la ville. Voilà. Donc c'est finalement un événement, puisqu'il va, c'est une traversée qui sera longue. Voilà. Et donc ça, c'est un événement de point de fuite, puisque c'est toujours très spectaculaire, les performances des funambules. Voilà.
Tiens, moi j'ai noté quelque chose, j'ai vu que Flore Proust va animer un atelier. On connaît Flore Proust en TED Talk, elle est déjà venue sur nos ondes. C'est surprenant ?
Alors non, c'est pas surprenant. Flore Proust, elle est bénévole à Derrière l'Hublot depuis quelque temps. Elle est aussi, elle fait partie des accompagnateurs des veilleurs. Et du coup, elle est très mobilisée et elle accompagne régulièrement des veilleurs pour veiller Cap de Nac. Et elle participe à beaucoup d'événements que l'on produit, et on a eu envie là de lui. On lui a proposé, comme à d'autres, puisqu'il y a plusieurs ateliers toute la journée, des rencontres, etc. Mais il y a plusieurs ateliers qui sont directement en lien avec l'expérience des veilleurs. L'idée, c'était qu'à un moment, 730 personnes auront veillé Cap de Nac depuis les hauteurs, et c'est d'inviter les gens aujourd'hui à plonger dans Cap de Nac et aller finalement dans les rues et dans les endroits finalement qu'on a pu observer depuis le haut. Et on le fera à travers trois angles. Un angle qui est celui de la botanique, avec Christian Deynac, qui est un autre bénévole de Derrière l'Hublot, impliqué parmi les accompagnateurs aussi, qui nous amènera à faire une balade botanique. Un autre avec Luc Gadinski, qui est un géographe, professeur d'université à l'école d'architecture à Toulouse aussi. Et on fera avec lui une balade, du coup, à travers la géographie de Cap de Nac. Et puis, Florent, avec laquelle, du coup, on travaillera sur la perception du temps, voilà, d'un point de vue philosophique. Et là aussi, du coup, ce sera une espèce de rencontre. Et ces trois rencontres-là s'appuieront aussi sur les écrits des veilleurs, puisque chacun des veilleurs a écrit sur le livre d'or quelques souvenirs, quelques remarques, quelques mots. Et l'idée sera, dans ces trois ateliers, de puiser dans ces écrits pour évoquer le temps avec Flore, la question géographique et du rapport au territoire avec Luc Gadinski, ou la question botanique avec Christian Deynac. Voilà.
Et vous pourrez également manger sur place.
Exactement, on pourra manger sur place, hein, d'autant que chaque année, on invite un cuisinier ou un artiste cuisinier à travailler avec nous. Et cette année, donc, c'est Aurélie Caillol, l'atelier du Miam, qui est invitée. Et qui est une cuisinière qui travaille avec des produits très proches de la nature. Voilà, donc là, déjà, les bénévoles de l'équipe cuisine sont au travail pour réaliser des sirops, faire de la cueillette, réaliser des pestos divers et variés, faire des produits fumés. Enfin, voilà, c'est assez rigolo. Elles sont en train de préparer énormément de choses. Voilà, les différentes équipes de bénévoles sont au boulot, quoi.
Quels sont les projets pour après, pour DLH ?
Alors, les projets pour Derrière le Hublot sont là. Alors, on ne va pas sortir indemne des veilleurs, hein, je disais. Donc, il y a un projet de livre après, donc sur l'expérience des veilleurs. Mais les projets après, c'est la continuité de notre action, c'est-à-dire un travail en saison qui démarrera en septembre et qui se terminera en décembre, et puis ainsi de suite, l'an prochain. Voilà. Mais on peut d'ores et déjà dire que la rentrée pour nous, après Point de Fuite, en termes de rendez-vous et de spectacle, ce sera le 23 septembre sur Cap de Nac, avec l'accueil d'un groupe de rock cabaret, chansons très théâtralisées, de femmes ukrainiennes, qui s'appellent les Dark Daughters, et qu'on accueillera. Et c'est une date événement, puisqu'au final, elle joue partout en Europe, un petit peu en France. Elles n'ont pas eu l'occasion de jouer ici. Voilà. Et donc, ça, ce sera notre rentrée avec une nouvelle édition. Et en tout cas, elles arriveront là dans le cadre de la nouvelle édition de Travers, qui est ce rendez-vous qu'on leur mène sur les chemins de Compostelle et en randonnée, quoi. Voilà, en relation au paysage, etc. Voilà.
Donc, Travers se poursuit.
Travers se poursuit. Et la saison se poursuivra. Et puis... Et avec des événements, plusieurs événements par mois, comme d'habitude, quoi, sur la saison, avec des actions pour le jeune public, des actions dans les villages, du théâtre de la musique, des théâtres de rue, de la danse, voilà.
Le fait d'être une scène conventionnée depuis déjà maintenant quelques temps, hein, qu'est-ce que ça a changé pour vous ?
Alors, ça a changé, je dirais qu'en France, il y a une forte valeur symbolique associée aux labels et aux dénominations comme ça. Donc, d'un point de vue symbolique, ça est assez, c'est assez important. C'est-à-dire que ça vient reconnaître le travail accompli par Derrière l'Hublot depuis plus de 25 ans maintenant. Donc, ça reconnaît ce travail-là. Ça l'inscrit un petit peu durablement dans le paysage culturel français. Ça fait de Derrière l'Hublot ça institutionnalise aussi un petit peu Derrière l'Hublot, du coup. Voilà, et puis ça a vocation à pérenniser aussi des financements publics que l'on avait et qui ont vocation à rester là, même si on voit que tout ça c'est fragile, puisqu'aujourd'hui là, on voit tous les jours des structures culturelles qui sont en crise, qui sont remises en question, etc. Voilà, donc c'est jamais, la partie n'est jamais gagnée. En tout cas, ça a permis depuis 3 ans. Et demi, et là on est dans la quatrième année du conventionnement, de sanctuariser ces moyens-là et du coup de permettre aussi du développement pour derrière l'hublot, et notamment tout le développement de fenêtres sur le paysage, de travers, la création des œuvres d'art refuge, celles qui sont sur le territoire et celles qui sont ailleurs. Voilà. Mmh. Ouais. Et ça permet de pérenniser de l'emploi aussi, de l'activité, mais aussi de sécuriser l'emploi des gens qui sont dans l'équipe. Voilà.
Bien, bah donc pour plus de renseignements, vous pouvez vous rendre sur le site derrière-le-hublot.fr. D'ailleurs, il y a aussi la billetterie sur le site.
La billetterie est accessible depuis le site et puis depuis les points habituels sur le territoire de billetterie. Après, il y a peu de spectacles à billetterie puisqu'il y en a seulement deux. Voilà, tout le reste de la programmation est en accès libre, quoi.
Merci beaucoup, Fred. Au revoir.
Merci beaucoup. Au revoir.